Radio Okapi.
Meurtre hier à Goma d'une jeune femme enceinte de 6 mois de jumeaux. Elle a été tuée par balle lors d'une attaque par des hommes armés non identifiés dans le quartier de Munigi, à proximité du bureau du Mwami. Même les deux bébés n'ont pas pu être sauvés. Après ce énième meurtre, la société civile demande aux autorités de prendre des mesures concrètes et rapides pour rétablir l'ordre dans la ville. L'Office de voirie et drainage, OVD, dénonce des vols récurrents des matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation des routes dans les différents chantiers de la ville de Mbujimayi. Le gouverneur de province demande à la population d'être vigilante et de dénoncer tout cas de vol. Trésor Akizimana, chef de projet éducation au risque à la CILAM, est l'invité de ce journal. Il va expliquer le comportement positif à adopter pour éviter les accidents liés à des engins explosifs non explosés en cette période où de nombreuses familles déplacées regagnent leur village aux environs de Kanyabayonga au nord Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. À Goma, une jeune femme enceinte de 6 mois, des jumeaux, a été tuée par balle lors d'une attaque perpétrée hier par des hommes armés non identifiés dans le quartier de Munigi, à proximité du bureau du Mwami. Selon sa famille, même les deux bébés n'ont pas pu être sauvés. La société civile demande aux autorités de prendre des mesures concrètes et rapides pour rétablir l'ordre dans la ville. Les circonstances de la mort de cette jeune femme, avec vous, Rosalie Zawadi.
Selon les frères de la victime, Tatiana, âgée d'un peu plus de 25 ans, venait de sortir de chez elle en début de soirée pour acheter des films afin de se détendre. Elle a été touchée par des balles tirées par des hommes armés qui voulaient piller non seulement l'édition où elle s'est trouvée, mais aussi les boutiques voisines. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'a malheureusement pas pu survivre à ses blessures. Les médecins ont tenté de sauver les jumeaux qu'elle portait, deux garçons. Mais sans succès. Face à cette nouvelle tragédie, la société civile de Goma a exprimé son indignation et son profond chagrin. Il est injuste que la population paisible continue à perdre la vie gratuitement de cette manière dans la ville, a dit Marion Gavo, son président. Il exhorte les autorités en charge de la sécurité à prendre des mesures concrètes et rapides pour mettre fin à ces cycles de violence. Selon les statistiques des organisations de défense des droits humains, ces derniers jours, au moins deux personnes sont abattues chaque jour dans la ville, sans compter les cas de cambriolage et les nuits tourmentées par des tirs nourris. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Face à cette montée de l'insécurité dans la ville de Goma, la société civile, coordination communale de Karisimbi, réagit. Elle propose que soit réactivée la mesure de l'autorité provinciale interdisant l'accès au site des déplacés, aux hommes en armes, que soit également assurée la mobilité des patrouilleurs avec des moyens de locomotion adéquats. On écoute Christian Kalamo, président de la société civile de Karisimbi.
Il y a eu crépitement de balles dans beaucoup de quartiers de la commune de Karisimbi. D'où il y a même des morts au niveau du quartier Mugunga, au niveau du quartier Kasika, au niveau du quartier Mabanga Sud, d'où un jeune a perdu la vie, et au niveau du quartier Mabanga Nord, où une personne a été touchée par balle. Tout ça, ça montre une insécurité très grandissante dans la commune de Karisimbi. Il y a prolifération des hommes en armes, hors service, mais qui circulent librement dans la ville de Goma. Et même des bandits qui se font maintenant passer à nos FADC. Des bandits qui se font passer à nos PNC. Des bandits qui se font passer à nos Wazalendo. C'est parce que ils ont compris qu'il n'y a pas contrôle vraiment de ces militaires en divagation dans notre commune de Karisimbi. Ce qui nous pousse à faire appel à l'autorité urbaine pour faire respecter la note que le gouverneur avait signée pour interdire la circulation des hommes armés hors service de la ville de Goma. Mais aussi pour demander à l'autorité provinciale, pour doter la commune de Karisimbi de beaucoup de jeeps pour que l'intervention puisse chaque fois venir à temps réel quand on en a besoin.
Dans la ville de Beni, toujours au nord Kivu, une dizaine d'acteurs humanitaires de la société civile, ainsi que des représentants des jeunes, des femmes, des mouvements et groupes de pression de Beni, Butembo et Lubero, ont échangé hier sur la problématique d'entrave au travail des humanitaires dans l'est du pays. C'était au cours d'une rencontre organisée par l'ONG Jeunes Ambassadeurs de la Paix et du Développement de la RDC, JAPDRDC. Objectif, réfléchir sur les pistes de solutions pouvant permettre aux humanitaires de mieux venir en aide aux milliers de déplacés dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Le coordonnateur de cette ONG a appelé les participants à sensibiliser davantage les populations locales à mieux collaborer avec les humanitaires. Disciple Kassere Kamakasi explique au micro de Guylaine Kassassia.
Comme vous pouvez le constater, à partir de Lubero, Kanyabayonga, Kirumba Kaine, partout là-bas, et même dans les groupements Buito Chefferie, et dans les groupements Kanyabonga Chefferie de Buito, il y a beaucoup de déplacés. Et ça nécessite de l'aide humanitaire. Mais ce qui nous met à difficulté, ou ce que nous avons constaté, est de trouver que parmi la population, il y en a ceux qui passent, que les humanitaires, ils sont des ennemis. Au moment où ils amènent de l'aide aux vulnérables et aux déplacés. Avec ça, avec cette attitude, ça risquerait maintenant d'affecter même d'autres zones si rien ne se fait, mais aussi de créer ce qu'on appelle crise humanitaire. C'est dans ce sens qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut réfléchir avec des leaders communautaires, d'autres partenaires humanitaires, en fait de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre nos communautés que les humanitaires, ils viennent, ils amènent de l'aide et ils sont nés dans des conflits, ils n'ont pas une part de responsabilité dans des conflits. Et pour faire comprendre aussi nos communautés que la population a besoin de l'aide pour le moment.
Ici à Kinshasa, la coordination nationale du panel des experts de la société civile dit constater avec regret la persistance des cas de détention extrajudiciaire par les services de renseignement de la RDC, ce qui du reste constitue, selon elle, non seulement des violations graves des droits de l'homme, mais aussi et surtout des pratiques contraires à la constitution de la RDC. Dans un communiqué publié hier vendredi, la coordination nationale du panel des experts de la société civile cite le cas de Jonas Kasimba Mumbere, président de l'Alliance des Congolais pour la défense des intérêts du peuple, parti politique membre de l'Union sacrée et opérateur économique en RDC. Selon Dieudonné Mouchagalousa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, l'infortuné a été enlevé dans sa résidence de Ma Campagne à Kinshasa depuis le samedi 11 mai dernier. Il est détenu jusqu'à présent dans les geôles de l'ANR. Jusque-là, il n'a aucun contact avec sa famille ni ses avocats, malgré les cris de détresse de son épouse sur son état de santé précaire. On écoute Dieudonné Mouchagalousa, coordonnateur du panel des experts de la société civile.
La coordination du panel des experts de la société civile est très préoccupée par cette détention extrajudiciaire, d'autant plus que l'infortuné est sous régime alimentaire et médical, nécessitant une prise en charge régulière et appropriée. Gardien des valeurs citoyennes, le panel des experts de la société civile rappelle que la Constitution garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit établie par des juridictions compétentes. Il est donc indiqué que s'il y a des accusations apportées contre M. Jonas Kasimba Mumbere, la loi et les instruments juridiques internationaux exige à ce qu'il soit mis à la disposition de la justice. Au cas contraire, une certaine opinion risquerait de croire qu'il s'agit d'une pratique consistant à rançonner les hommes d'affaires. Il va sans dire que ceci ternit l'image de la République et par ricochet l'état des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Restons à Kinshasa pour parler de l'artiste musicien Koffi Olomide qui est attendu au parquet général près la cour de cassation le lundi 15 juillet pour des faits dont la connaissance lui seront communiqués sur place. C'est ce qu'indique en tout cas l'invitation qui lui a été adressée hier vendredi. Cette convocation intervient à la suite de son passage dans l'émission Le Panier de Morning Show sur la RTNC le 6 juillet dernier où il a tenu des propos controversés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces déclarations jugées dénigrante et démobilisatrice pour les forces armées de la République démocratique du Congo, lui ont valu une première convocation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, le 12 juillet, au cours de laquelle il a dû présenter ses moyens de défense. Notez que lors de l'émission, Koffi Olomide avait notamment déclaré « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut ». Nous en parlions dans le sommaire. Au Kassai oriental, des vols récurrents des matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation des routes dans les différents chantiers de la ville de Mbujimayi. L'office de voirie et drainage dénonce ces cas de vols à répétition. Au cours de la visite des différents chantiers effectués le week-end dernier, le gouverneur de province a demandé à la population d'être vigilante et de dénoncer tout cas de vol. Explication, Esther Ndalafina.
D'après ingénieur Jean-Félix Moulumba de l'Office de voirie et drainage OVD, les matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation de la voirie urbaine les plus volés sont les sacs de ciment, les moellons, les planches, les graviers et le sable. La même source précise que le vol est décrié dans tous les chantiers, mais le dernier cas en date est celui qui s'est produit il y a 2 semaines sur l'avenue Monseigneur Kongolo qui sépare la commune de Bipemba à celle de Djoulou. À cet endroit, c'est plus l'entreprise Safremex qui effectue les travaux de réhabilitation et modernisation des routes en Mbujimayi. Quelques voleurs ont même été surpris en pleine opération par la population. Ces vols à répétition ont été rapportés au gouverneur de province. Jean-Paul Mwebwe demande à la population d'être vigilante et d'identifier les voleurs de ces matériaux de construction. Signalons que d'autres cas de vol de lampadaires solaires sont également constatés sur certaines artères de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, les communautés Bira et Emma, établies sur les deux rives de la rivière Tchari, entre le village Kangakolo et Irumu Centre, peuvent de nouveau se fréquenter. C'est grâce à 2 barques motorisées qui ont été mises en service jeudi par le gouvernement provincial. Selon l'administrateur du territoire d'Irumu, qui a présidé la cérémonie de mise en service de ces barques motorisées, l'objectif est de renforcer la cohésion sociale et les échanges économiques entre les deux entités. Martial Kiza.
Cela faisait plusieurs années, voire décennies, que les populations des groupements Bassoumo et Mayalibo ne se fréquentaient plus en absence d'un pont jeté sur la rivière Tchari qui sépare les 2 entités du territoire d'Irumu. Assez préoccupant pour que le gouvernement provincial décide de mettre fin à cette situation quelque peu inédite. Jeudi dernier, 2 barques motorisées ont été mises en service sur la rivière Tchari. Pour les autorités provinciales, il s'agit non seulement de renforcer les rapprochements social entre les peuples Bira et Emma, mais aussi de faciliter la circulation des produits agricoles de première nécessité de part et d'autre de 2 communautés. Le colonel Siro Simba, administrateur du territoire d'Irumu, explique.
Ces 2 barques vous serviront pour traverser d'Irumu centre vers Kangokolo, voire même Bassounou. C'est aussi pour renforcer la cohabitation pacifique.
De leur côté, les autorités coutumières de 2 groupements, Salis et Juste, du gouvernement provincial. Elles appellent la population à vivre en paix et à privilégier les vivre ensemble. La société civile locale appelle les autorités militaires à consolider ce climat de paix dans cette région, jadis victime des attaques de groupes armés. Bounia, Martial Kizapiabongo, Radio Okapi.
Clôture hier à Kinshasa de la campagne des opérations chirurgicales gratuites des enfants à l'hôpital de Kalembelembe. Du 13 juin au 13 juillet, soit pendant 1 mois, 100 d'enfants souffrant de diverses malformations ont été opérés. Rendue possible grâce à la collaboration de la Fondation Vinmart, cette campagne avait pour objectif d'assurer une couverture de santé plus large au bénéfice de plusieurs enfants malades. Reportage Miradine Fouengi et Arcel Kajouro.
Quelques parents avec leurs enfants sont assis dans la cour de l'hôpital. À tour de rôle, ils répondent à l'appel du docteur pour les pansements des enfants. Pendant ce temps, les enfants opérés des malformations anorectales suivent des soins post-opératoires à l'hôpital. Visiblement contents, les parents témoignent le bienfait de cette campagne. Suzanne explique ce qu'elle a vécu avec son fils.
Nous sommes venus pour l'intervention de mon enfant qui n'avait pas d'anus. Ils nous ont bien reçus. Nous remercions la Fondation Vidmart pour ses soutiens. Nous n'avions pas de moyens.
Docteur Manuela Mukindi, pédiatre, explique le déroulement de cette campagne ainsi que le nombre d'enfants pris en charge.
Comme je vous l'avais dit, la cible au début était de 50 enfants. Il y avait un besoin urgent et massif. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter 100 enfants qui ont bénéficié d'une opération de chirurgie gratuite. On a eu plusieurs maladies, entre autres les enfants avec malformations du tube digestif. les enfants avec maladie de Hirschsprung, c'est-à-dire un mégacolon congénital, les enfants avec des grosses hernies. Le besoin est très important sur l'étendue de la République. On a vu des enfants venant des autres provinces.
La Fondation Ville-Marthe ainsi que l'hôpital de Kalembelembe comptent organiser à l'avenir une autre campagne pour venir en aide à plusieurs enfants malades.
Actualité internationale.
Hier vendredi, de nouvelles manifestations ont éclaté au Kenya. Des centaines d'étudiants ont bloqué une autoroute majeure pour exprimer leur colère contre les kidnappings et le gouvernement. Des centaines de jeunes manifestants de l'université de Nairobi ont bloqué une autoroute majeure protestant contre le gouvernement et exigeant la démission du président William Ruto. Pour rappel, le Kenya a connu des semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le Parlement le 25 juin après l'adoption d'un projet de loi financier proposant des augmentations d'impôts. Plus de 30 personnes sont mortes lors de ces manifestations qui se sont transformées en appel à la démission du président. Le chef de la police du Kenya, Japheth Koome, a démissionné le même jour où 5 corps enveloppés dans des sacs ont été trouvés dans une carrière près d'un bidonville.
L'invité.
Au Nord Kivu, alors que de nombreuses familles déplacées regagnent leur village aux environs de Kanyabayonga à la suite de la trêve humanitaire, la synergie de lutte anti-mine Silam tire la sonnette d'alarme. Ces zones de retour, autrefois théâtre de combat, sont susceptibles de contenir des engins explosifs non explosés. 2 enfants ont perdu la vie mardi, pour rappel, après avoir marché sur un engin dans la zone. Face à ce danger, la Silam exhorte les populations retournées à la plus grande prudence. Trésor Akizimana, chef de projet et éducation au risque à la SILAM, explique les comportements positifs à adopter pour éviter les accidents liés à ces engins. Il a été reçu par Rosalie Zawadi.
Monsieur Trésor Akizimana, bonjour.
Bonjour, madame.
Quels sont les risques auxquels sont exposés actuellement les retournés dans les territoires de Rutshuru et Masisi en ce qui concerne les engins explosifs?
Effectivement, on est en train de constater un mouvement des déplacés vers leurs villages d'origine qui, pour nous, les acteurs de la lutte anti-mine, on est en train de constater un grand danger qu'ils peuvent rencontrer une fois dans leur village. C'est lui de trouver la présence des engins explosifs qui ont été abandonnés. Au-delà de tout ça, il y a des engins explosifs qu'on a essayé de larguer, mais qui n'ont pas explosé et qui constituent un grand danger. Ce qui fait, c'est que cette population-là, ces déplacés-là, sont en train de courir un grand danger parce que nous pouvons y trouver des engins explosifs d'ici et là, dans leur village, parce qu'on ne sait pas là où les engins ont atterri. Quand on parle des risques, quand on parle des dangers que la population est tentée de courir en rentrant dans leur village d'origine, nous pouvons aussi signaler un accident qu'on a pu enregistrer ici récemment le mardi dans le territoire de Lubero, un groupement de Kanyabayonga, dont 2 enfants qui ont connu un accident, qui cherchaient des bois de chauffe et qui cherchaient quelque chose à manger dans leur sein. Malheureusement, ils ont trouvé des engins qui ont été largués, mais qui n'ont pas explosé. Et dont ces 2 enfants, nous déplorons leur mort parce qu'ils n'ont pas été informés. Ils ne savaient pas les dangers qui les attendaient dans les champs.
Quel comportement positif alors pour prévenir les accidents liés aux engins explosifs dans les zones de retour des populations en Nord Kivu?
Merci beaucoup. Les comportements de sécurité, les comportements positifs que nous pouvons essayer de donner à la population et à nos frères et sœurs qui sont en train de rentrer dans leur village d'origine, les premiers comportements que nous pouvons leur demander, c'est de ne pas toucher. Lorsque vous êtes en face d'un engin explosif, avec couleur, avec sa forme, n'essayez pas de les toucher. C'est le premier comportement que nous pouvons demander. Le deuxième comportement que nous pouvons demander, qui est aussi très important, lorsqu'on voit un engin explosif, c'est de rentrer en arrière et d'aller informer les autorités, d'aller informer les leaders de la communauté, d'aller informer les autres que tel part là où je suis passé, je vis un engin explosif. Et notre comportement que nous pouvons essayer de donner à la population, c'est de ne pas essayer même de donner un coup de pied parce qu'on peut dire que non, on nous a dit de ne pas y toucher. Laisse-moi donner un coup de pied ou laisse-moi essayer de le bouger avec un petit morceau d'arbre. Non, non, cela n'est pas bon. C'est un comportement qui peut vous conduire à la mort ou à une situation d'handicap. En tout cas, ce sont les comportements que nous pouvons essayer de donner à la population, beaucoup plus de ne pas toucher, de ne pas s'approcher de l'engin, de ne pas essayer de donner un coup de pied, de ne pas essayer de les ramasser ou de ne pas essayer de dire que non, non, je peux les déplacer, non. Lorsque vous les déplacez, vous les touchez. Lorsque vous dites que je peux y jeter un coup de pierre, vous les touchez et vous vous exposez à un grand danger, à un grand accident qui peut vous coûter la vie ou soit qui peut vous coûter un membre du corps. Et il faut retenir que beaucoup de ces engins ressemblent à ceux-là que nous utilisons dans nos cuisines. Nous allons y trouver des engins qui ressemblent à des mortiers que nous utilisons dans nos cuisines, surtout nos mamans, qui ressemblent à des pilons. Nous allons trouver des engins qui ressemblent à des ananas, comme des grenades. Et nous demandons beaucoup plus à la population de faire attention et de ne pas confondre les objets que nous utilisons dans la cuisine et les engins explosifs.
Est-ce qu'il y a des actions que vous envisagez au niveau de la SILAM pour accompagner la population qui retourne dans les anciennes zones de combat?
Bien sûr, nous envisageons des actions. Et la première des actions que nous envisageons, c'est de sensibiliser cette population-là. C'est de donner des connaissances à cette population-là déplacée, qui envisage de rentrer, bien sûr. De les sensibiliser sur les dangers que présentent les engins explosifs, de les sensibiliser également sur les comportements à adopter, de les sensibiliser sur les conséquences que présentent ces engins-là et de les prévenir sur les dangers et sur les comportements qu'ils devraient effectivement observer pour garder leur sécurité et pour être dans des zones qui sont un peu sécurisées. Et aussi, nous demandons à ceux-là qui peuvent appuyer les acteurs de la lutte anti-mine pour essayer de multiplier les actions, multiplier les sensibilisations, multiplier également aussi les enquêtes non techniques dans des zones qui ont connu des combats et des zones qui peuvent permettre à ce que les acteurs de la lutte anti-mine puissent y accéder et mener des enquêtes non techniques pour envisager aussi les dépollutions des zones polluées.
Monsieur Trésor Akizimana, je rappelle que vous êtes chef de projet éducation au risque à la synergie des luttes anti-mine. Merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Jean-Noël Mokondo, un journal coordonné par Jacques-Yves Molima. Restez à l'écoute des programmes du Média de la Paix, Radio Okapi.